Merci à toutes les trois pour ces interventions particulièrement riches et stimulantes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, je vais proposer tout de suite de prendre les questions dans la salle. Moi, j'en aurai quelques-unes aussi. Il y en a une devant, je crois.
Merci beaucoup, Maxime. Oui, je voulais vous demander, parce que j'ai quelque chose qui m'a vraiment intriguée, c'est quand vous avez expliqué que les personnes un peu plus âgées ou ayant plus de maturité font preuve de plus de réflexivité par rapport aux enjeux liés au numérique. Et c'est vrai que sur mes terrains de recherche, j'ai pu observer qu'il y avait un côté plus alarmiste, plus critique, mais plus réflexif. C'est pas l'impression que j'ai eue. Donc je me demandais réflexif plus chez ces personnes-là que chez des publics plus jeunes, par exemple. Merci.
En fait, j'appelle réflexif, c'est qu'ils se regardent faire. Et ils continuent de faire, ils approfondissent, mais ils se regardent faire et ils sont pas, c'est pas de l'alarmisme, c'est ils évaluent un peu des limites, des risques, ils regardent ce que ça change, ce que ça modifie dans leur pratique de sociabilité, dans leur recherche de connaissances. C'est ça que j'appelle une réflexibilité qu'on n'a pas du tout retrouvée chez nos enquêtés plus jeunes, qui font de manière très naturalisée. Mais je pourrais vous envoyer plus d'extraits, les choses plus développées où il y a plus d'extraits, on voit
et
ça.
Comment vous avez réussi à avoir ça, parce que c'est vrai, moi, le but, sur la question de la réflexivité avec les publics que je rencontre, puisque très souvent, la limite dans les échanges qu'on a, c'est de dire qu'il y a une foule aliénée qui a les mauvaises pratiques, mais que nous-mêmes, on n'en fait pas partie. Et pour moi, c'est là où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réflexivité.
Pour moi, il y a toujours la réflexivité, mais la question là qui différencie, c'est que ces personnes nous en parlent tout de suite, et les jeunes n'en parlent pas, mais il n'y a jamais de foule aliénée. Enfin, pour moi, en tout cas. Comment on fait dans les entretiens, moi, c'est simple, je ne demande jamais ce qu'ils pensent d'eux, ou etc. Je leur demande ce qu'ils font. Toujours. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Et c'est là, en fait, où... alors, peut-être que le temps de l'entretien produit cette réflexivité, mais le fait est qu'on a posé un peu les mêmes protocoles à tous nos enquêtés, et que ce sont plutôt les plus âgés, enfin, même, surtout, qui nous disent, je fais ça, je vais voir le théâtre... je vois qu'il y a tel acteur qui va passer, du coup je vais sur son site, mais du coup je me rends compte que ça me prend du temps, alors je fais gaffe, c'est toutes ces... Mais très clairement, plus on demande des choses concrètes dans les entretiens, plus on a le regard sur ce qu'on fait.
D'autres questions?
Juste, je pensais, pour compléter cette question sur les enquêtes, il y avait une enquête qui avait été faite, et j'ai plus la référence, il faudrait que je la retrouve, sur les musées, les publics des musées, où notamment la grosse différence qui avait été observée sur les publics plus âgés, les publics plus jeunes, les publics plus âgés allaient beaucoup plus explorer le contenu qui avait été mis à disposition par l'institution culturelle, alors que les publics plus jeunes avaient un rapport plus immédiat, plus pratique. On venait chercher un achat de billet, on venait chercher quelque chose, et allait plus chercher des informations ailleurs dans cette étude qui avait été menée. Après, réduire à une fraction d'âge, on se rend compte que c'est souvent assez faux. Mais voilà, c'était un peu une tendance qui avait été observée. Et ça, en fait, c'était aussi corrélé sur les grands spectateurs et les occasionnels, en fait. Que les occasionnels avaient un rapport plus pratique, on vient chercher, et que les spectateurs prenaient plus de temps dans leur relation, notamment quand ils avaient une fidélité, au contenu proposé par l'institution à laquelle ils étaient fidèles.
Alors, je profite d'avoir un petit peu de temps pour poser une question à chacune. En commençant par la toute dernière intervention, j'étais très intéressé par cette idée que le TMN Lab et vous-même portez, que la transformation numérique dans les institutions, c'est aussi transformation du mode de gouvernance et aller vers plus d'horizontalité. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... parce que vous nous avez donné des exemples de lieux où ça se... pense, voire même où c'est en train de se faire, est-ce qu'il n'y a pas quand même une très grande résistance de la part des lieux culturels à aller véritablement vers une horizontalité dans le domaine de la programmation, et en particulier d'un partage de la programmation avec les publics. Et je pose la question à dessein, parce que moi je fais une enquête en ce moment avec des directions de CDN et théâtres nationaux, et le discours que moi je vois s'affirmer très fortement, c'est celui d'une autonomie absolue de la programmation, et qui est une manière de remettre sur le devant de la scène l'autonomie esthétique, et de dire nous ne devons rien à la société. Enfin, c'est même très très fort. Hein. Voilà. Donc comment est-ce que vous, depuis l'endroit où vous êtes, vous observez cela ?
Oui, effectivement. Alors, on n'aborde pas ce sujet de la même manière en fonction de qui on a en face de nous. Le rôle social presque du programmateur est très important encore aujourd'hui, et parfois il y a presque une aura et quelque chose qu'on ne peut pas trop comprendre justement. Et il est vrai que quand on monte un projet artistique pour un lieu, la question esthétique de la cohérence, etc., elle est hyper importante. Et de même, quand on fait une programmation dans un lieu culturel, on est là aussi pour faire découvrir des spectacles, favoriser l'émergence, construire un projet cohérent. Et donc, c'est un métier. Après, il y a plusieurs endroits de remise en question cette hégémonie. Elle peut se situer sur la collaboration avec son équipe, déjà. Donc, l'ouverture de l'accès à la programmation à d'autres au sein d'une structure et que ce ne soit pas porté par une seule personne. Donc, il y a des lieux qui le font. Et là, on est face à des personnes qui ont des expertises, pour le coup, vraiment, en termes de connaissances et des publics et des projets. Ça va être sur, par exemple, une part d'une thématique. On va avoir quelqu'un peut-être un peu plus conseiller à la danse au sein de sa structure, conseiller jeune public, etc. Et donc, en tout cas, la question de la programmation va moins faire l'objet d'une culture du secret dans ces structures. Et ensuite, la question de la programmation avec les usagers, les publics, moi je trouve qu'elle est hyper intéressante, mais elle est hyper intéressante quand elle est extrêmement accompagnée. Et il ne s'agit absolument pas de dire tiens, on va confier la programmation à du public, parce que chacun son métier, soyons clairs. En revanche, accompagner les publics dans la découverte de ce métier et travailler avec eux, soit sur une part de la programmation, soit par exemple, nous, on avait un club des spectateurs, qui était donc un club d'usagers qui nous permettait de faire évoluer notre travail au sein de la structure. Et bien parfois, on proposait à des spectateurs de nous accompagner sur des repérages de spectacles. Et le dialogue que nous, on nouait avec ces publics-là, est très intéressant parce que ça nous permet de déplacer notre regard. Ça ne veut pas dire qu'ils vont choisir le spectacle. Ça veut juste dire que tout d'un coup, ça nous nourrit autrement. Et après, les exemples qui ont pu être menés sur de la vraiment programmation avec les publics, quand par exemple c'est à l'Agora, ça reste sur un... C'est en fait une expérience de médiation presque qui est proposée aux enfants. Donc les enfants viennent faire un comité de programmation, viennent comprendre ce que c'est ce métier. Et en fait, le fait de comprendre ce qu'on fait à l'intérieur, nous, le club de spectateurs, dès le début, les gens, ils voulaient programmer des spectacles. Et dès le début, on leur disait, c'est pas l'endroit. Et en fait, assez rapidement, par contre, on leur a fait comprendre comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient moins un mystère. Et quand ça devient moins un mystère, on comprend en fait que c'est un métier d'autant plus. Donc c'est une question de positionnement aussi. Et donc après, par exemple, vous avez à Orly, le conseil culturel, je crois, qui a été créé par la direction de la culture, où ils ont fait un appel et ils ont environ 25 habitants qui font partie de ce conseil pour 3 ans. Et là, ils programment avec eux vraiment tout le temps. Mais on est dans une programmation en régie directe. Donc on est dans une programmation qui est moins soumise à la question de la ligne esthétique d'un lieu. Donc l'idée n'est pas, encore une fois, une injonction de faire programmer des publics. Parce qu'il y a un moment, si on fait programmer des publics, on ne pourra plus faire d'émergence, on ne pourra plus avoir la diversité de la même manière. Parce que chacun son métier. C'est un métier de programmer quand même. Par contre, il y a des espaces de faire ensemble.
Comment s'appelle le lieu en question, Orly ?
C'est Orly, c'est la ville d'Orly. Donc c'est la direction des affaires culturelles d'Orly qui a monté ses conseils. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans. En tout cas, c'est le premier conseil qui est en cours. Je pense que ça fait 2 ans. Et là, ils ont eu un prix, justement. Ils ont été récompensés par des récompenses de DAC, ou je ne sais plus, mais en tout cas, de projets collectivités.
Ma deuxième question portait plutôt sur la question de la connaissance des publics. Mm-hmm. Parce que vous nous avez dit la difficulté qu'il pouvait y avoir à évaluer de la réussite d'une opération de médiation telle que celle que vous avez conduite. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'un opéra comme celui de Rennes, est-ce qu'il enquête sur ses publics ? Sous quelle forme et donc de quelle connaissance des publics dispose l'institution ce qui est évidemment un appui essentiel, aussi bien si on veut faire de la médiation que si on veut comprendre comment la médiation opère. Et pour le coup, on a un contre-exemple important avec le TGP qui donc, a mené avec Christine Bellavoine ses enquêtes sur les publics, mais y compris dans les CDN, c'est très rare en réalité d'avoir des enquêtes proprement sociologiques qui soient autre chose que simplement de relever par exemple la ville de la personne au moment de l'achat du billet sur Internet. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est à Rennes et comment vous positionnez par rapport à cette question de la sociologie des publics et la manière dont vous avez vu?
Alors, à l'Opéra de Rennes, de ce que j'ai pu en savoir, il n'y avait pas d'études de public de fait autrement que par le biais justement des données, on va dire, bancaires, civiles, géographiques. Et alors, il y a un paradoxe, je me ferais taper sur les doigts si vous m'entendez en parler. L'Opéra de Rennes est en régie. Et il y a une partie de l'équipe qui dépend de la municipalité et une partie de l'équipe qui, en quelque sorte, se défend d'appartenir à la municipalité et considère qu'elle a un rôle beaucoup plus indépendant, ce qui génère des formes de conflits. Et notamment, bah, la billetterie, c'est... je vulgarise énormément, hein, je m'en excuse d'avance. C'est le fonctionnariat de l'Opéra et il n'y a pas de communication entre ces services. Et quand moi, j'ai voulu avoir affaire à ces chiffres, qui évidemment existent quand même quelque part, le statut étudiant, il est stipulé puisqu'il y a une tarification étudiante. On m'a répondu que c'était compliqué et que ce n'était pas possible. Donc il y a une pure mauvaise volonté de réponse, alors qu'il se cachait derrière un « oui, mais nous, on n'a pas le même statut, on n'a pas le temps », qui se cachait aussi derrière une espèce de conflit, de dire « oui, mais eux, ce qu'ils font à l'action culturelle, ce qu'ils font à l'ARP, ça nous dérange, ça nous embête, ça nous donne du travail ». Enfin, voilà, des problèmes de communication dans une équipe qui, en l'occurrence, est de manière très notable sur deux lieux différents. L'équipe dite, que je qualifierais d'indépendante, elle est dans des bureaux à l'extérieur de l'opéra. L'équipe dite fonctionnariale, elle est dans l'opéra, en l'occurrence dans un lieu de passage, de courant d'air et voilà, dans un inconfort aussi. Donc voilà, c'est plus cet aspect-là qui fait que j'ai pas pu, moi, avoir de réponse. Donc des choses enfin, de régie que vous souleviez aussi, qui peuvent vraiment être très handicapantes voilà, dans à la fois la démarche de l'action culturelle et puis dans les questionnements qu'on peut se poser.
C'est vrai que la question que ça pose, c'est avec cette logique que vous avez évoquée de toucher de nouveaux publics.
Oui.
C'est compliqué de toucher de nouveaux publics quand on a du mal à saisir qui sont les publics actuels.
Mais surtout qu'il y a un
nombre. Autrement qu'avec des données qui sont très. C'est difficile de faire un portrait sociologique à partir simplement des données qu'on a avec la billetterie. Quoi.
À l'Opéra de Rennes, par contre, il est relativement simple. Le constat, on n'a qu'à regarder la salle. La moyenne d'âge, c'est 70 ans. Le public est 100% blanc, de visage et de cheveux. Je caricature encore, mais c'est assez frappant. C'est vraiment ça. Hein. C'est même assez terrifiant quand on y va avec des étudiants et qui regardent les gens autour d'eux et que c'est ça. C'est 60, 70, 80 ans. Blanc à 100%, encore une fois, des pieds à la tête. Donc, sur ce calcul de dire on va essayer de toucher des jeunes, on va essayer de toucher d'autres populations, là, on sait qu'on va à un endroit qui n'est pas touché. Et pour revenir à la question aussi, encore une fois, de qui s'occupe de quoi, les gens qui s'occupent de la billetterie, manifestement, ne tiennent pas à ce qu'il y ait des nouveaux publics. Parce que des nouveaux publics, c'est des comportements différents. Et ça n'est pas souhaité par certaines personnes qui préfèrent une forme d'immobilité. De nouveaux publics, ça veut dire des jeunes avec des portables. Oh mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une vraie préférence pour les vieux abonnés qui au moins se tiennent bien, arrivent à la bonne heure, vont dans la bonne file d'attente, connaissent leur placement. Voilà, ça c'est encore une fois un constat de terrain. Donc,
et l'opéra.
On pourra couper au montage comme on dit. C'est du off.
Et alors justement, sur ces abonnés, ces grands spectateurs, moi je me demandais, parce que le portrait des grands spectateurs que tu as fait était très saisissant, puis rappelait, je trouve, à différents titres les travaux de Dominique Pasquier sur la sociabilité des publics de théâtre. Et je me demandais, voilà, quelle est aussi la conduite qu'ont les théâtres publics par rapport aux plateformes dont tu nous parlais, comme Digitik, etc. C'est-à-dire, est-ce que... Je ne suis même pas certain, en fait, que les CDN, par exemple, soient présents de façon très importante sur ces plateformes.
Ils y sont, mais pour être là, quoi. Il y a une espèce...
Parce que mon questionnement, c'était un peu... Alors, il y a cette représentation des publics, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi guidée par des stratégies en amont par les CDN et les théâtres nationaux qui se disent, on va moins... communiquer sur ce genre de plateforme, on va moins vendre sur ces plateformes-là. Donc soit on n'y va pas, soit on y va très peu, on fait des petits coups d'essai.
Alors, je vous avais dit, il y avait trois volets donc, dans cette petite étude, donc le volet politique du TGP, les plateformes et puis les publics. Alors ce qui est clair, c'est qu'il y a une alliance objective, qui n'est pas explicite, mais entre le fonctionnement du théâtre et ses grands usagers. C'est-à-dire que, alors je retrouve complètement le TGP qui avait d'ailleurs répondu à l'enquête que vous aviez faite en 2015, parce qu'on était dans les mêmes périodes, sur ce que vous constatez, c'est qu'il y a une histoire, en fait il y a une culture du théâtre qui n'est pas du tout sur ces questions d'horizontalité, de communication, etc., mais sur la création, la qualité du spectacle et le plateau. Donc c'est clair que tout le développement du numérique qui a été fait au TGP a en fait consisté à continuer à valoriser cette qualité, cette création, cette qualité des responsables du CDN, parce que je suis d'accord, il y a quand même ces personnages. Ils ont changé de vecteur où ils se sont mis entre guillemets au numérique, sans formation, sans avoir pris vraiment conscience qu'il y avait possibilité de développer autre chose. Et ce qui est intéressant, et ça rejoint ce que tu dis, c'est que pour le théâtre, la communication numérique, elle n'a pas été utilisée du tout pour ouvrir à des nouveaux spectateurs ou à ouvrir le champ, d'un point de vue sociologique. Elle a été utilisée pour aller chercher des niches de spectateurs identifiés comme potentiels spectateurs, les classes supérieures cultivées, on va dire, et qui ne viennent pas, mais peu dans la médiation, comme vous l'avez fait à l'opéra, pour construire un discours, un récit. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est clair qu'ils se sont adressés à leurs grands spectateurs. Et ils le disent aussi quand ils ont compris qu'ils pouvaient aller un petit peu plus loin que le plateau. C'est essentiellement parce qu'ils se rendent compte de la concurrence, en fait, de ce territoire hyper connecté de Paris et de cette offre dont il faut prendre une part de marché, ils le disent presque comme ça. Et donc, ils vont rentrer dans la communication, justement, ce que vous disiez, sur le lieu, avec l'expérience de la soirée à Saint-Denis qui va être différente de celle d'ailleurs. Donc là, ils vont miser sur l'accueil, sur le restaurant, bon, c'est tout ce qu'on connaît. Alors moi, je trouve que ça pose des questions aussi, parce que on voit ça aussi avec les cinémas indépendants. On a eu aussi une petite enquête sur l'écran à Saint-Denis, et lors de la restitution de ce petit travail, lors d'une table ronde comme ça, il y avait le directeur de Montreuil, donc avec le Méliès tout nouveau, avec ses 6 salles, etc. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc il expliquait que l'objectif initial était d'ouvrir à de nouveaux publics, de faire tout ce qu'on vient de dire, se rencontrer des publics, des jeunes qui ne vont pas, etc. Donc il explique progressivement comment le projet s'est construit, avec donc plusieurs salles de cinéma, mais surtout cet accueil, ce café, la bibliothèque gratuite, etc. Et donc, constat, c'est génial, tout le monde vient maintenant à Montreuil. Et donc, il y a quelqu'un dans la salle qui dit, oui, mais est-ce qu'ils vont voir les films, les jeunes qui viennent? Parce que c'était ça l'objectif de départ, c'était quand même d'acculturer au cinéma un peu moins commercial. Et là, on ne sait pas trop. Mais comme si le fait de faire des lieux où la sociabilité, la porosité sociale se voit, ça remplit la fonction d'ouverture des publics. Donc on voit bien comment c'est compliqué cette histoire de...
Ce qui est une partie d'ailleurs de l'histoire du TGP, je crois que c'est au moment où Valérie Land et Stanislas Nordet...
Alors
diriger le lieu, il y a eu cette logique aussi de centrer sur le lieu avec des moments de repas.
Oui, mais il y avait quand même des porosités avec la création, très fort. Alors, autre chose, c'est que du coup, si le numérique... Alors, par exemple, le TGP voudrait bien accroître sa notoriété chez les cadres qui travaillent à la Plaine Saint-Denis, par exemple. Pour eux, c'est une réserve, entre guillemets, qui peut être... alors, je n'ai pas d'avis là-dessus, moi, mais... Alors, du coup, ils vont être référencés... Alors, j'ai voulu retrouver le site pour que vous alliez voir, mais ils vont être référencés sur des sites de culture premium, un peu classe quand même, un peu haut de gamme, pas pour les comités d'entreprise lambda, mais quand même pour où ils proposent des formules avec champagne pour des cadres, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce référencement, alors que ordinairement ils présentent leur situation dionysienne comme étant un handicap, voilà, parce que Saint-Denis, ville populaire, risque, etc. Sur ce site, il y a un récit de l'histoire du théâtre populaire. Donc ça devient une expérience atypique. Et tout ce qui va être médiation plus vis-à-vis du public qu'ils vont appeler empêché ou public social, ça va être vraiment physique, avec de la médiation physique, par le biais de la création d'ailleurs, ça peut être intéressant parce qu'ils font des créations avec des habitants de Framboisins, il y a des expériences, mais c'est vrai que le numérique, pour moi, est utilisé, mais ça date quand même un petit peu de quelques années, il faudrait que je retourne voir François Lorrain pour voir ce qu'il en est, c'est utilisé quand même... voilà, dans cette géographie des théâtres et pour des publics qui sont déjà quand même présents.
J'ai une autre chose à dire, mais... Merci beaucoup. On prend une toute dernière question.
Merci. Merci vraiment du cœur de vos interventions. J'avais une petite question pour un égal par rapport à deux points. D'abord, si vous pouviez redévelopper un peu cette question des droits culturels et du numérique, parce que enfin, voilà, j'ai la trouvée importante et j'aimerais bien que vous en tourne un peu plus. Et la deuxième question, c'est que je pensais à un lieu comme la Gaîté Lyrique. Et je me disais finalement, la chose qu'on a peu abordée, mais que vous devez bien connaître sur ce risque économique, c'est précisément que les mécènes sont des grandes entreprises et que du coup, il y a réellement une privatisation du lieu. Dans le même moment où cette question des droits culturels entre la Gaîté Lyrique ou le numérique est le sujet phare de la programmation, etc., il y a toute l'autre tendance qui va de pair, les deux sont inséparables, de privatisation d'espace, de comité qui est géré par ces grandes entreprises qui va quand même décider sur cette privatisation, sur les Fab Labs qui sont en cours, sur les entreprises qui ont le droit de citer, donc ça va jouer sur les données. Et c'est très étrange pour moi de regarder un peu ça, pas de très près, mais comme je peux, en voyant à la fois qu'il y a une enquête très précise sur les publics qui a été menée pendant plus de 3 mois, vraiment donc une volonté de s'approcher de leur public, de se rapprocher des droits culturels, mais tout l'effet inverse dans le même moment. Et j'aurais aimé voir comment vous pensiez ces questions sur des lieux comme ça, peut-être un peu phares, qui sont moins portés sur des publics empêchés, de fait, l'histoire de la Gaîté Lyrique, mais qui ne semble peut-être pas un cas unique, puisqu'on nous donne comme un lieu qui serait un peu le modèle pour demain d'autres lieux culturels.
Alors, sur la question des droits culturels d'abord, la question des droits culturels n'est pas qu'une question que on m'a beaucoup interrogée sur comment les professionnels dans les lieux s'approprient la question des droits culturels. C'est un truc qui revenait souvent, et il s'avérait que l'ensemble des professionnels avec qui je suis en gêne n'abordaient jamais ce sujet. Que les seules personnes que j'avais vues se réclamer des droits culturels, c'est effectivement l'Agora et dans les projets du directeur, et par exemple des compagnies qui avaient un ancrage assez militant sur le terrain. Mais ce n'était pas du tout quelque chose d'assez de naturel. Et c'est très récemment, où en reprenant les piliers des droits culturels, et notamment, alors que je ne me trompe pas, la question de la formation, la manière dont c'est formulé et la question de la participation, en fait, qui sont formulées dans les droits culturels, que ça fait complètement écho aux questions et aux enjeux de la révolution numérique et des nouveaux rapports aux usagers, en fait. Donc c'est vraiment ces questions de formation, accès à la connaissance, émancipation et apprendre à se créer son propre savoir par une ouverture en fait complète d'accès à l'information, et la question de la participation avec tous les différents degrés qu'elle peut revêtir. Donc voilà sur la question des droits culturels. Est-ce que c'est assez précis comme réponse par rapport à ce que vous voulez ?
Oui, mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment ce croisement d'enjeux récents entre droits culturels et la question du numérique ? Est-ce que vous avez du coup d'autres exemples que l'Agora de structures qui d'un coup viendraient
Personne ne le formalise, mais même l'Agora ne le formalise pas. Moi, je l'ai observé, c'est-à-dire que j'ai vu que l'Agora parle de droits culturels, mais l'Agora ne parle pas de révolution numérique particulièrement. C'est moi qui fais ce rapprochement. Mais j'observe des personnes qui se réclament de la question de la révolution numérique pour mettre en œuvre des nouvelles formes d'usage et de relations au territoire. J'observe des gens qui se réclament des droits culturels pour le faire. C'est moi qui fais la convergence. D'accord. Et qui tout d'un coup m'a sauté aux yeux, en fait. Mais que je n'ai pas vu faire par d'autres.
Vraiment 2 minutes.
Oui, oui. Et du coup, la deuxième question, alors, qui est effectivement... Déjà, la gaieté lyrique, pour moi, c'est un peu... Il y a des lieux comme ça, comme le 104 aussi, qui sont quand même des ovnis. Par exemple, la gaieté lyrique ne relève pas du champ du TMN Lab, mais effectivement, c'est un lieu qu'on observe, puisque c'est un lieu dédié aux cultures numériques qui a fait dans son ADN la question de l'innovation. Effectivement, la question de la place des entreprises dans un modèle comme la gaieté lyrique, qui doit extrêmement être financée par le privé, c'est-à-dire qu'ils ont des, je crois qu'ils sont 50% de leur budget doit être financé par du privé, c'est énorme, se pose beaucoup la question de l'équilibre, en fait, de la place de leur mission par rapport aux places d'une entreprise. Le mécénat pose des questions de conflit d'intérêts, pose des questions de qu'est-ce que l'entreprise défend, et donc si elle vient, quand Total vient mécéner une exposition sur le désert, alors qu'ils sont, enfin, bon, bref, ou Coca-Cola qui vient consommer l'eau de partout, il y a un problème aussi de positionnement politique qui peut être compliqué. La gaieté lyrique, dernièrement, il y a eu un projet, par exemple, une exposition Comprendre, qui était un peu leur première expérience comme ça, c'était celle qu'ils ont fait avec Ubisoft. Et en fait, c'est vrai qu'ils cherchent des modèles où ils vont trouver une place juste pour l'entreprise qui va vraiment amener de l'argent pour faire fonctionner la gaieté lyrique, et en même temps construire ensuite ensemble des contenus, mais avec un commissariat vraiment fort de la gaieté lyrique pour que justement on garantisse cette question de l'exigence, du contenu, etc. Et c'est vrai que par exemple l'expo Ubisoft, on n'y était pas. Mais eux-mêmes le disaient, c'est-à-dire que Ubisoft avait un peu fait comme ils voulaient, il y avait comme un tarif qui était très cher, un contenu d'un point de vue muséographique, si on veut, assez pauvre. Mais bon, c'était le début d'une expérimentation. Eux ont une volonté d'avoir une exigence. Mais c'est vrai que les partenariats qu'on voit public-privé dans les structures culturelles, j'ai l'impression qu'au 104, ils ont géré une forme d'incubation assez intéressante, avec une séparation claire de la part artistique et de ce qu'ils essayent de créer en termes de rencontres, d'open innovation et de synergie. Quand on voit le centre Pompidou avec le fonds de dotation qu'ils ont monté, ils ont mis des entreprises qui ont apporté des millions avec des artistes qui viennent créer en entreprise, mais ensuite il y a carrément une exposition qui est montée avec les entreprises. Mais on voit qu'il y a quand même une exigence en termes de création qui est là. Donc, est-ce qu'on doit remettre en question les choses parce que les entreprises sont derrière ? En même temps, il y a une vraie interrogation du modèle. Une vigilance doit être très très forte sur la question de la programmation, donc du choix esthétique, de l'exigence, etc. Après, voilà, j'aurais pas forcément grand-chose à en dire de plus, mais je pense qu'il y a des expérimentations. On est obligé de mener ces expérimentations-là parce qu'aujourd'hui, il y a une telle chute des financements publics que les lieux doivent se poser la question de la réinvention. Après, pour juste conclure, je dirais que la question de l'innovation, on est dans une ère... on revient à une ère de la frugalité. On revient. On aimerait revenir à une ère de la frugalité. Je parlais du low-tech aussi, je parlais de toutes ces choses-là. Et en fait, on voit que l'innovation, parfois, elle peut aussi être plus frugale. Et que c'est pas forcément... Enfin, les baisses de subventions, elles inventent aussi à réinventer des nouveaux modèles. Et donc, c'est pas seulement d'aller chercher de l'argent privé. C'est aussi de réinventer, par exemple, d'aller explorer l'économie sociale et solidaire dans les modèles des institutions culturelles. Donc, il y a d'autres pistes à aller explorer. C'est aussi des choses dont on parle au sein du TMN Lab qui permettent de pas de tomber dans cette dépendance qui inquiéterait, c'est certain. Si on avait une privatisation complète, ou par exemple plus de 50% des financements qui viendraient du privé, ce serait quand même très inquiétant.
Je me permets d'ajouter qu'il y a aussi à l'Opéra de Rennes une autre façon d'accueillir des mécénats, qui est plutôt l'échange de savoir-faire. L'Opéra de Rennes sert de plateforme à des entreprises locales sur le son, la vidéo, la 3D, l'intelligence artificielle, qui se sert du lieu opéra pour développer des projets, l'opéra les mettant en valeur. Littéralement, là, c'est gagnant-gagnant et il n'y a pas cette dépendance aux mécènes.
Oui, c'est l'open innovation, je n'ai pas du tout expliqué, merci. En fait, mais non, mais c'est, j'utilise du jargon, je n'explique pas, mais effectivement, les projets d'open innovation, c'est intéressant pour ça. C'est en fait comment, et ça existait dans le privé, mais aujourd'hui, de plus en plus de structures culturelles vont vers ça et essaient de créer des partenariats gagnant-gagnant. Et à Londres, par exemple, c'est de l'ordre du mécénat, mais le développement des lunettes pour l'accessibilité des personnes malentendantes au spectacle, c'est une forme d'open innovation. L'entreprise amène de l'argent, utilise le lieu pour tester une technologie et la développer, mais en même temps met du coup gratuitement cette technologie au service de l'accessibilité des publics. Et en même temps, ça va lui permettre, elle, de développer un modèle et un produit qu'elle pourra commercialiser ailleurs. Donc il y a un truc donnant-donnant. Et effectivement, la Gaîté Lyrique fait ça aussi. Ils font des partenariats techno autour de, d'équipements du lieu, par exemple. Ouais.
Il y avait une question.
En fait, je m'excuse, c'est une question très, très, très factuelle et très rapide. Mais en fait, j'ai lu récemment une thèse qui portait sur les musées. Hein, mais en fait, la problématique était assez différente, mais... Elle évoquait aussi de façon, à travers les discours des acteurs institutionnels, elle évoquait aussi très fortement cette baisse des subventions. Mmh. Et en fait, ce qui m'a manqué dans cette thèse, c'est juste, j'aurais envie d'avoir une idée du chiffre de cette baisse. En fait, quel est le chiffre selon vous? Qu'est-ce que vous observez très concrètement? Parce que je l'entends souvent ce discours. Je le crois à 100%, j'ai juste envie de savoir, voilà, très concrètement, combien, pour le théâtre, par exemple, en France, c'est quel chiffre?
Alors, moi, je n'ai pas de chiffre global national, donc ça, je pense qu'il doit y en avoir, hein, si on regarde du côté du Syndéac, de la lettre du spectacle, etc., on doit pouvoir trouver des publications avec des chiffres nationaux. Après, c'est des observations, par exemple, à un moment, quand les grosses baisses ont commencé à... Il y a quelqu'un qui a mis en place la carte aux crises Culture, tu te meurs, qui est une carte collaborative en ligne où justement elle référençait tous les lieux qui avaient subi des grosses baisses avec les montants, voire qui étaient obligés de fermer à cause de ça. Donc là, vous avez une liste, par exemple, d'exemples qui l'ont vécu. Et après, il y a différentes manières de baisser les subventions. Il y a la baisse directe. Hop, on vous enlève 100 000 euros l'année prochaine, parfois avec des échéances extrêmement courtes, parfois en cours d'exploitation de saison. Mais il y a aussi, on ne vous baisse pas la subvention, mais on vous donne des charges supplémentaires. Et il y a aussi beaucoup de lieux qui vivent ça, c'est-à-dire que par exemple, des choses qui étaient prises en charge par la collectivité ne vont plus l'être. Donc il y a des manières, et du coup, je pense que le calcul n'est pas forcément évident d'avoir une vraie vision de ce qui se passe. Je ne sais pas si on peut avoir un chiffre complètement précis. En plus, avec la décentralisation, il y a vraiment des leviers de financement très, très variés. Et donc, c'est pareil. Et on voit qu'il y a aussi une concentration. Par exemple, sur les Hauts-de-Seine, il y a eu une suppression d'énormément de subventions des compagnies, des petits lieux, des projets plus petits, au profit d'une politique de financement des établissements structurels du territoire, notamment la scène musicale, et quelques établissements structurants. Et du coup, il y a eu une concentration sur quelques équipements. Et du jour au lendemain, plein de petits lieux, de petits opérateurs culturels ont perdu leur financement. Donc voilà, ça se passe de manière extrêmement différente en fonction des collectivités.
Mais je crois que d'un point de vue politique, ce serait très important d'avoir des données très précises sur ces questions-là, aussi en vue d'une mobilisation des publics, par exemple, en faveur de la culture. Je crois que si on n'a pas à un moment donné ce recensement très précis, c'est compliqué.
Oui, après la question. Mais la question des chiffres, en fait, ne suffit pas à la mobilisation. Et je pense que la relation et cette horizontalité, cette manière de réinventer des relations à ses publics et à son territoire est beaucoup plus forte pour favoriser la mobilisation derrière. Et que j'ai vu des acteurs qui perdaient de la subvention, mais qui avaient aussi, au fur et à mesure, perdu une relation plus horizontale, étaient beaucoup plus dans une relation de service haut. Et du coup, le jour où la subvention elle baisse, les gens ne sont pas dans la rue. Alors que si une relation est beaucoup plus forte et tissée avec chaque territoire, dans une relation où il y a une implication des publics plus forte dans les lieux, le jour où la subvention elle baisse, les gens sortent dans la rue. Et donc on reprend un pouvoir politique aussi là-dessus. Donc je m'interroge en fait sur la capacité à mobiliser aujourd'hui pour la culture. Je pense qu'il y a le public culturel s'est quand même beaucoup érodé. Et la question de la consommation culturelle a beaucoup favorisé l'approche servicielle en fait des lieux culturels. Et du coup, je pense que ça ne va pas aider à la mobilisation.
Merci. Je laisse le dernier mot à...
Oui, juste sur le théâtre par rapport à votre question. Moi, je n'ai pas entendu de la part des acteurs du théâtre, mais je ne sais pas, Maxime, tu... qu'ils aient vraiment subi des baisses drastiques de subventions. En revanche, ils ont une incitation à augmenter la part de la billetterie dans leur budget. Alors, je ne sais pas si c'est préalable à la coupure ou si on leur demande de monter, voilà. Mais par exemple, aujourd'hui, c'est à peine 10%. Enfin, aujourd'hui, non, quand j'avais travaillé avec eux, c'était à peine 10%. Et ils avaient vraiment injonction à augmenter cette part. Donc, est-ce que c'est, voilà, en les prévenant que ça doit prendre...
Et c'est valable, je pense, pour tous les théâtres.
Voilà, c'est...
Voilà. Voilà,
je pense que c'est la tendance qui d'où cette tout ce que je disais sur leur recherche de public payant avec champagne et tout.
Oui, là,
c'est aussi des incitations qu'on leur fait.
Le yield management pour optimiser le rendement des chiffres d'affaires, les formes de mécénat innovantes, enfin la question du développement des ressources propres, elle est très très importante.
Je pense qu'on pourrait en débattre encore pendant plusieurs heures. Mais on va malheureusement s'arrêter là. Merci beaucoup.
Ah oui, je voulais faire une petite publicité, je peux. On a une petite revue qui s'appelle Très Modeste, qui s'appelle Saint-Denis au fur et à mesure. Et l'avant-dernier numéro porte justement sur cette étude des publics du TGP. Il y a aussi l'étude qu'on a menée sur les publics de l'écran, du cinéma. Et en invité, il y a justement Culture 21 qui a travaillé sur les droits culturels avec la mairie de Saint-Denis qui a élaboré tout un schéma des droits culturels. Donc, et je leur ai demandé de conclure sur les difficultés de la mise en œuvre des droits culturels. Alors oui, donc en ligne, normalement, si vous ne cherchez pas dans le site de Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis, vous y allez et vous allez directement dans le moteur de recherche, secteur des études locales. Et là, vous aurez les numéros et c'est le numéro 69. C'est Saint-Denis au fur et à mesure, et dans le site de la ville, dans le moteur de recherche, vous cherchez secteur des études locales, et normalement, vous tombez sur les... Voilà.